en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Le 7 et le 8 décembre 2007 s'est tenu le colloque international Jean Mabillon entre érudition et histoire culturelle à l'Institut de France. Le colloque était organisé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, par le laboratoire d'études sur les monothéismes, par le CNRS et par l'école pratique des hautes études et par la société Mabillon, dans le cadre du tricentenaire de la mort de Jean Mabillon. Le colloque avait pour but d'étudier la personnalité de Mabillon, son statut dans l'historiographie française ainsi que son œuvre érudite. Après avoir étudié Mabillon et son image, les communications ont porté sur un second thème, Mabillon et les enjeux de l'érudition. C'est dans ce cadre que Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de trois de ces communications, dont la communication de François Dolbeau de l'École pratique des hautes études qui s'intitulait « Quelques instruments de travail chez les moristes ». Retrouvons-le en grande salle des séances.
Le concept d'instrument de travail peut renvoyer à trois réalités différentes. D'abord, les usuels consultés par les moristes durant la préparation de leurs ouvrages. Ensuite, les manuels pratiques, grammaire, dictionnaire, catalogue, conçus et souvent publiés par des membres de la congrégation de Saint-Maur. Enfin, des outils intellectuels fabriqués par eux, listes cumulatives, répertoires, index, incipitaires, etc., et destinés ou non à être insérés dans des publications patristiques ou historiques. Je traiterai brièvement du premier type, un peu plus longuement du second, mais je m'attarderai surtout à commenter le troisième en prenant pour exemple certains outils repérés dans les archives moristes. Un tel exposé ne saurait prétendre à l'exhaustivité. Il voudrait suggérer l'exploration de nouvelles pistes de recherche afin que les savants bénédictins replacés dans leur milieu puissent être surpris en plein travail. Depuis le XVIIIe siècle, les historiens ont eu tendance à isoler les moristes et à les traiter comme un groupe privilégié. Cela a contribué à surévaluer la qualité et l'originalité de leurs publications et de leurs méthodes. Certes, les bénédictins vivaient à l'écart du monde, mais des livres, des lettres, des amis pénétraient dans leurs abbayes et avec eux de nouvelles idées et pratiques érudites. Or, les ouvrages historiques, comme les éditions d'auteurs, avaient connu un développement remarquable sous Louis XIII. Recenser les livres que consultaient ou recommandaient les moristes assurerait le lien avec l'érudition antérieure. Une source de renseignement est le traité des études monastiques de Mabillon, à compléter par les indications que transmettent les moristes dans leurs circulaires, correspondances, préfaces ou notes. Mabillon conseillait ainsi aux débutants la lecture de 4 livres, tous du jésuite Philippe Labbe. Je cite « Il serait bon qu'ils eussent la chronologie du père Labbe en 5 volumes in 12, car ils trouveront dans cet ouvrage une chronologie assez exacte, les lettres dominicales, l'indiction, le nombre d'or et le jour de Pâques de chaque année avec les événements les plus considérables qui s'y sont passés. Il serait encore bon qu'ils eussent aussi les tableaux généalogiques du même auteur, qui contiennent les généalogies des rois de France et des principales maisons souveraines du royaume, et d'autres. Enfin, le petit livre du père Labbe, nommé Regia Epitome Historiae Sacrae ac Profanae, in 12, est de grand usage à cause des noms et des temps des papes, empereurs et rois qu'il spécifie. On peut ajouter à ces livres le Bibliotheca Chronologica Scriptorum Ecclesiasticorum du même auteur. Dans la congrégation de Saint-Maur, l'apprentissage de l'histoire se faisait donc dans des livres publiés par des jésuites. L'érudition moriste est fille, et surtout durant le troisième quart du XVIIe siècle, rivale de celle de la Compagnie de Jésus. Pour apprécier correctement la place des moristes dans l'histoire intellectuelle, il faudrait donc disposer de meilleures études sur des personnalités comme Jacques Sirmont ou Philippe Labbe, sur les travaux effectués au Collège de Clermont, et sur l'apprentissage historique des bénédictins des deux premières générations, celle d'Hugues Ménard et de Luc d'Achery. Le second type d'instrument de travail correspond aux divers manuels qui furent produits dans la congrégation, parfois en remplacement d'ouvrages qu'avaient naguère procurés les jésuites. Les entreprises historiques et les éditions de textes monopolisent aujourd'hui l'intérêt parce qu'elles continuent de nous servir. Manuels, livres scolaires, dictionnaires, répertoires, c'est-à-dire les usuels, vieillissent plus vite, de sorte que les productions mauristes en ces domaines, à quelques exceptions près, sont tombées dans l'oubli. Beaucoup de projets ne furent pas menés à terme. D'autres furent achevés, mais non imprimés. Les publications de ce type se multiplièrent au XVIIIe siècle, à une époque où les moines contestés dans leur rôle social augmentaient leur implication dans l'enseignement et voulaient manifester leur attachement au bien public. Pour l'histoire intellectuelle en général, celle de la pédagogie en particulier, il existe là un vaste domaine à peine exploré et qui pourrait réserver des surprises. Car les mauristes ont préparé des manuels sur tout, ou presque. De la caminologie, ou manière de faire des cheminées qui ne fument point, à la gnomonique pratique, ou l'art de tracer les cadrans solaires. La liste de tels ouvrages est longue, même limitée aux disciplines littéraires et historiques. Manuels scolaires de grammaire, de littérature, d'apprentissage des langues, comme la grammaire latine réduite en jeu de cartes ou de dés, manuels d'exégèse et d'hébreu pour la formation en théologie, abrégés chronologiques, dictionnaires d'histoire ou de géographie historique, traités sur les sciences auxiliaires, catalogues de manuscrits, dictionnaires de langues hébraïques, bretonnes, latines. Vous comprendrez que le responsable actuel du comité du Cange veuille s'attarder un peu sur les dictionnaires. Les mauristes s'intéressèrent très tôt à la lexicographie latine. Dans un catalogue de livres à imprimer, pour lequel Luc d'Achery se fit accorder en 1654 un privilège vicénal, figurait l'entrée « Vocabulaire de Papias ». En 1686, l'imprimeur lyonnais Jean Anisson demanda à Mabillon de se concerter avec Ducange et de chercher un confrère capable de donner une édition augmentée du dictionnaire latin d'Ambrogio Calepino, autrement dit le Calepin. Mais aucun de ces projets ne fut mené à bien. Cependant, les éditions, comme le dépouillement d'archives, révélaient sans cesse des mots rares ou inconnus qui justifiaient la mise en chantier d'un dictionnaire. La première mention d'une révision du Glossarium Mediae et Infime Latinitatis de Charles Ducange remonte à septembre 1711. L'ouvrage avait été imprimé à Paris en 1678 et supplémenté par l'auteur en 1688. Mais depuis lors, de nouveaux textes étaient parus. Le travail de révision fut d'abord confié à Claude Guénier, qui mourut en 1722. Puis une équipe composée de Nicolas Toutain et du bretonnant Louis Le Pelletier, qui, dégoûté des intrigues parisiennes, sollicita son retour en Bretagne. Après la mort de Toutain en 1731, ce fut une nouvelle équipe formée de Maure, Dantine et Pierre Carpentier qui publia finalement la refonte du glossarium en 6 volumes entre 1733 et 1736. Carpentier quitta la congrégation peu après en emportant ses papiers, si bien que la suite de l'histoire, c'est-à-dire la parution d'un copieux supplément en 1766, ne relève plus de mon propos. En lexicographie grecque, deux dictionnaires furent projetés et en partie réalisés, mais restèrent à l'état manuscrit. Le premier, conçu par Bernard de Montfaucon, visait à recueillir les mots absents des lexiques antérieurs. Évoqué dès 1696, puis dans une lettre d'Henri-Simon Chevalier en août 1741, il resta inachevé à la mort de l'auteur en décembre de cette même année. L'autre projet, préparé par Chevalier lui-même, visait à refondre un répertoire antérieur en couvrant mieux la langue biblique. Mais il n'aboutit pas non plus, bien que son concepteur eût vécu jusqu'en 1764. En matière de catalogage de manuscrits, les entreprises du XVIIe siècle, à Saint-Germain-des-Prés, dans beaucoup de maisons mauristes, à la Bibliothèque du Roi, n'avaient pas été destinées à être imprimées. Montfaucon, dans son Diarium Italicum de 1702, fut le premier à publier des analyses et inventaires de manuscrits qu'il avait recueillis durant son séjour en Italie. Mais l'entreprise la plus achevée des mauristes, due aussi à Montfaucon, est un catalogue détaillé des manuscrits grecs qui provenaient de la collection du chancelier Séguier, la Bibliothèque Aquiliniana Olim Seguiriana, publiée à Paris en 1715. Cet ouvrage devait fixer pour longtemps la norme du catalogue scientifique. Toutes ces notices débutent par les données codicologiques fondamentales, codes actuels et anciennes, matières, datation par siècle, alors assez nouvelles, nombre total de folios. Les pièces recensées ensuite, souvent avec leur titre exact et leur incipit, sont précédées soit d'une mention de feuillet, soit d'un numéro d'ordre. Ce qui frappe dans ce livre est d'une part l'ampleur de l'index, imprimé en finale sur deux colonnes, d'autre part le soin apporté à transcrire les pièces mineures, distiques, souscriptions d'auteurs, légendes d'illustration, ainsi que les colophons, ex dono, ex libris, anathèmes. Je reviendrai plus tard sur cet aspect. En comparaison, la Bibliotheca Bibliothecarum de 1739, même si elle reste précieuse au sujet de fonds disparus, n'est qu'un ensemble mal organisé d'inventaires sommaires, souvent publiés avec des coupures. Montfaucon n'y tint pas compte de l'heureuse suggestion d'un confrère de lui adjoindre une série d'inventaires médiévaux, un projet novateur qui ne sera exécuté qu'en 1885. Les outils que les moristes fabriquèrent à leur usage forment un troisième type d'instruments de travail. Certains n'ont jamais été destinés à être imprimés et n'avaient de finalité qu'heuristique. D'autres auraient peut-être trouvé place dans des ouvrages restés inachevés. D'autres enfin, modifiés ou non, ont été imprimés comme instrumenta dans des éditions de textes. Tous avaient en commun de rassembler par accumulation une documentation au départ dispersée en de multiples sources. Afin d'illustrer ce type d'instrument, je traiterai d'abord de listes nominales, puis des incipitaires. Enfin, à partir de notes de Mabillon et Ruinart, je chercherai à dégager l'une des originalités moristes dans la description des manuscrits médiévaux. La mise en route des Acta Sanctorum de l'Ordre exigeait un relevé chronologique des saints bénédictins. Ce relevé existe toujours, à la Bibliothèque nationale de France, dans une sorte d'agenda oblong, intitulé « Index Alphabeticus Sanctorum Monachorum Ordinis Sancti Benedicti ». Au verso du premier feuillet figure une explication des codes employés ensuite et de la main de Mabillon, les index à prévoir dans les volumes en préparation. La liste alphabétique est disposée sur trois colonnes. Les noms de saints, avec qualité et localisation, occupent la colonne centrale. La seule lettre A comporte 388 noms. Si les noms sont surmontés d'une croix, c'est que les moristes disposaient d'une vie. La colonne de gauche est réservée aux autres codes. Un astérisque y signale les saints douteux ou étrangers à l'ordre, qui provoqueront ensuite une polémique. Et un numéro de 1 à 11 correspond au 11 siècle bénédictin, c'est-à-dire au 6e, 16e siècle de l'ère chrétienne. Enfin, la colonne de droite mentionne les dates liturgiques et, le cas échéant, l'année du décès. Cette liste a été conçue comme un document vivant, avec des blancs plus importants derrière les noms comme Johannes ou Petrus. Elle est du reste écrite de plusieurs mains et enrichie d'additions. En 1711, Maure Audrin, alors assistant du supérieur général, évoquait, je cite, « les différents projets qu'on se propose ici pour l'illustration et la gloire de l'histoire gallicane ». Parmi ces derniers se trouvait un martyrologe, un nécrologe général. Des projets voisins étaient médités de longue date chez les moristes et leurs papiers renferment des essais de regroupement visant à dépasser le niveau d'un martyrologe ou d'un nécrologe isolé. Le premier, intitulé « Martyrologium Galliae Christianae », n'est pas signé, mais on y reconnaît la main de Don de la Motte. Le martyrologe proprement dit occupe la partie centrale des feuillets. Les marges internes et externes indiquent respectivement les années de l'incarnation et les sources des notices. L'auteur avait prévu ensuite un répertoire alphabétique des saints, dépourvu de dates liturgiques, un calendrier des dédicaces d'église et une concordance entre noms latins et français. Le noyau primitif repose sur une compilation d'auteurs imprimés, mais les additions, souvent datées des années 1629-1635, renvoient à de très nombreux manuscrits, notamment de Toulouse et de Tarbes. Le projet fut abandonné en raison de la publication par André du Saucet, en 1636-1637, du Martyrologium Gallicanum. Cela est dommage, car l'ouvrage du Maurice était méthodique et quasi achevé. Il servit ensuite d'instrument de travail à Mabillon, qu'il l'évoque dans sa préface aux Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti. Un second projet, indépendant du précédent, est dû à Claude Etienneau. Son manuscrit autographe est intitulé Agiologion Gallicanum. La préface datée de 1677 recense 36 documents ou calendriers dépouillés qui proviennent de régions comprises entre Poitiers et Clermont, Pont-le-Voie et la Chaise-Dieu. Sous chaque jour de l'année sont notées les mentions relatives à des saints des Gaules qu'Etienneau tirait de ses dépouillements. Cette banque de données hagiologiques, toujours précieuse, était destinée explicitement à Mabillon. Il s'agissait d'un document ouvert qui pouvait être enrichi à loisir. Quelqu'un du reste a poursuivi le travail d'Étienneau en dépouillant un manuscrit de Corby. Une compilation analogue existe pour les nécrologes. Il s'agit d'un essai de dépouillement cumulatif d'après 6 nécrologes provenant respectivement d'Auxerre, Saint-Bénigne de Dijon, Corbie, Saint-Denis, Saint-Germain, Saint-Rémy-de-Reims, siglés respectivement A, SB, C, SD, SG, SR. Le dépouillement proprement dit, selon l'ordre du calendrier, couvre 176 feuillets et mentionne les sigles en marge. Des index sophistiqués occupent 30 feuillets. Le premier est un index général des noms qui renvoie aux sigles et aux jours de l'année numérotés de 1 à 365, système astucieux et définitif de référence. Les index suivants de personnes et de lieux rapprochent entre eux les papes, archevêques, évêques, abbés, rois et reines, empereurs, puis renvoient à des mentions groupées par église et par monastère. Les incipitaires sont une autre forme de liste cumulative. Dans l'histoire de cet outil philologique, les moristes ont joué un certain rôle. La tradition hellénistique de l'incipit comme moyen d'identifier un texte fut transmise à l'Occident médiéval par les rétractationnistes d'Augustin. Les lettrés du Moyen-Âge s'en servaient des incipits pour obtenir des copies. Gabriel Gerberon agissait de même alors qu'il préparait son édition d'Anselme. Ses papiers renferment 2 exemplaires identiques d'un index Epistolarum Sancti Anselmi fondé sur les premiers mots des lettres. Gerberon envoya ses incipitaires à des correspondants afin de se voir préciser le contenu de tel ou tel manuscrit et d'en commander les apographes. Mais son édition imprimée d'Anselme en 1675 ne renferme pas d'incipitaire. Les éditeurs d'Augustin ont également compilé un incipitaire, mais cette fois complet, des Opera Omnia du Saint. Cet outil, qui nous est parvenu en 2 exemplaires, était disposé sur 6 colonnes. Thomaison des Lovanistes, incipit d'un à 4 mots, rarement plus, conditionnant le classement alphabétique, numéro du livre pour les traités, numéro de la lettre, numéro du sermon, titre de l'œuvre. Plusieurs codes sont utilisés. L'astérisque pour les pseudépigraphes, 1-0 pour les inédits, 2 barres pour les pièces du supplémentum de Jérôme Vignier, paru en 1654. Les maîtres d'œuvre disposaient ainsi d'un tableau de commandes pour piloter l'entreprise. Cela dit, l'édition imprimée ne contient pas d'incipitaire, qui reste là encore un simple instrument. Comme dans le cas des catalogues, c'est à Montfaucon qu'est due l'évolution décisive. La publication des mêmes textes sous des noms différents, la multiplication des spicilèges, augmentait le risque de publier comme inédites des œuvres déjà imprimées. Pour faciliter les recherches, Montfaucon projeta donc de constituer un incipitaire général de la littérature grecque et latine, chrétienne et profane. Incipitaire associé, en raison du nombre élevé de textes acéphales, à un explicitaire. La plus ancienne allusion à ce projet se lit dans une lettre de janvier 1696. Un premier essai, limité aux incipits d'Athanase, Basile, Grégoire de Nazianze, Jean Chrysostome, compte 111 feuillets. Chaque incipit, long d'une ligne ou un peu plus, et suivi de sa référence sur une seconde ligne, a été copié sur une bande de papier allongée, puis collé dans un registre in quarto sur les seuls rectos. D'après les éditions citées, le collage fut achevé avant le départ de Montfaucon pour l'Italie au printemps 1698. Le volume fut enrichi ensuite dans les marges et sur les versos de notes, renvoyant souvent à des manuscrits consultés dans la péninsule, et il fut doté d'un système de codes destiné à isoler les pièces mutilées et inédites. Une seconde version, plus ample et plus soignée de l'incipitaire, est conservée dans 2 in-folios du supplément grec de la Bibliothèque nationale. Les languettes, de format plus carré, y sont collées sur 2 colonnes. Les incipits, tous en grec, mais cette fois d'auteurs chrétiens ou profanes, n'y renvoient, semble-t-il, qu'à des imprimés. D'après les éditions citées, le collage fut effectué entre 1712 et 1715. Les additions sont moins nombreuses que dans l'incipitaire précédent. On avait déjà, dans le passé, dressé des incipitaires par auteur. Les innovations de Montfaucon sont la fabrication d'un incipitaire général, regroupant des textes divers, même si la littérature latine évoquée en 1696 en est restée finalement absente, et l'association de celui-ci avec un explicitaire. Certes, les lettrés, depuis Thomas d'Irlande au XIVe siècle, combinaient incipit et explicite pour identifier un texte. Et une circulaire moriste avait déjà reconnu l'intérêt spécial du procédé dans le cas des pièces acéphales. Mais un explicitaire alphabétique est un outil très spécial pour lequel il n'existe à ma connaissance aucun précédent. Celui qu'a conçu Montfaucon est conservé dans un volume du supplément grec d'écriture et de facture analogue à l'incipitaire in folio. Les languettes collées sur deux colonnes sont classées selon le dernier mot des textes en prose, mot répété en vedette devant le membre de phrase finale, et pour les poèmes, selon le premier mot du dernier vers copié in extenso. Un tel outil serait encore susceptible de rendre des services tant que les bases de données textuelles ne seront pas complètes. Ni l'édition d'Athanase en 1698, ni celle de Basile en 1721 ne recensent les incipites. Chez les moristes, le premier incipitaire à être imprimé le fut, semble-t-il, par Montfaucon en 1738 dans le 13e et dernier volume des opéras Omnia de Chrysostome. Le moriste, dans la publication d'un instrument de travail, avait été influencé par Henri Saville, qui avait déjà fait imprimer en 1612, à titre de checklist pour un supplément éventuel, un double incipitaire des œuvres de Chrysostome, traités et sermons d'un côté, lettres de l'autre. Il semble que Montfaucon ait donné au typographe, en l'adaptant avant impression, un outil qu'il utilisait durant la préparation de son travail. Il figure en effet les premiers mots d'Homélie pseudépigraphe écartés de son édition. À l'égard des incipitaires et explicitaires, comme on le voit, les pratiques des bénédictins manifestent donc un progrès majeur. Pour terminer, j'aimerais revenir sur deux aspects des descriptions codicologiques déjà évoquées à propos de la Bibliotheca Qualimiana, aspects pour lesquels la contribution des moristes fut importante, sinon décisive. Le premier est la datation des manuscrits par siècle. Aux environs de 1650, l'âge des livres se calculait comme celui des hommes, par soustraction entre leur naissance et le présent. Un manuscrit de 600 ans. De sorte que cet âge augmentait avec les années. Paul Lehmann a jadis montré que l'étiquetage par siècle, un manuscrit du XIe siècle, s'était introduit graduellement à partir de la génération de Mabillon vers 1675. L'usage s'est imposé parce qu'il fut propagé par les deux fondateurs des paléographies latines et grecques et qu'il présentait l'avantage de la fixité. Mais le savant allemand n'a pas expliqué pourquoi il était apparu chez les moristes et vers cette date. Le matériel à disposition suggère que la cause en fut le plan retenu pour les Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti, répercuté au niveau des instruments de travail, des Sicula Benedictins, on passa ensuite naturellement au siècle de l'ère chrétienne. Un second aspect des meilleurs catalogues moristes, qu'ils soient inédits ou publiés, est l'attention accordée aux marques de possession et aux pièces mineures, billets, poèmes, épitaphes, etc. Ce trait remonte assez haut dans l'histoire de l'érudition moriste. Une circulaire appelée « Méthode pour la recherche des manuscrits » déclarait déjà, je cite, « ne rejeter ou mépriser rien quand ce ne serait qu'un épigramme d'un distique ». Un avis émanant de Mabillon est encore plus explicite. Je cite, « il faut aussi parcourir les manuscrits, s'il y en a, feuillet à feuillet, d'autant que bien souvent il y a des choses remarquables pour l'histoire qui sont insérées dans les vides de quelques pages ou dans les marges des manuscrits, mais principalement au commencement et à la fin, encore que ces manuscrits renferment des matières toutes différentes, comme les ouvrages des saints-pères. » Le conseil de Mabillon est destiné à ceux qui travaillent aux histoires des monastères. C'était parce que la congrégation était engagée dans des recherches historiques et prosopographiques que les moindres textes additionnels y étaient tenus pour importants. Quel éditeur patristique s'était soucié jusqu'alors de ces minuties ? Mabillon, du reste, pratiquait ce qu'il recommandait aux autres. Dans la version imprimée de cet exposé, j'éditerai des notes prises sur les manuscrits de Saint-Rémy de Reims par lui-même et surtout par son compagnon de voyage, Thierry Ruinart. Les œuvres majeures dans ce catalogue y sont évoquées d'un mot, tandis que les pièces mineures sont copiées in extenso, y compris celles qui servaient de garde ou de contre-garde, billets, chartes, fragments de rouleaux des morts, etc. Certaines de ces transcriptions prises à Saint-Rémy furent ensuite exploitées dans des publications mauristes. D'autres sont restées inconnues et n'existent plus en original, puisque la plupart des manuscrits de Saint-Rémy brûlèrent en 1774. Ces notes illustrent mieux qu'un long discours les conseils cités plus haut et représentent, semble-t-il, le premier relevé systématique de Colophon et d'Aix-Donneau. Les manuscrits ne sont plus seulement porteurs de textes à collationner, ils deviennent des objets archéologiques et des sources pour recréer l'histoire des échanges entre monastères médiévaux. La congrégation de Saint-Maur fut donc un milieu novateur sur le plan philologique, où des entreprises parallèles pouvaient se féconder entre elles. Les papiers et publications de ses membres recèlent encore des ressources insoupçonnées pour l'histoire de la pédagogie ou celle des pratiques philologiques et codicologiques. Mes propos d'aujourd'hui visent non pas à en épuiser la richesse, mais à inciter de jeunes chercheurs à se risquer sur des sentiers, hélas, trop peu fréquentés.
Vous venez d'entendre la communication de François Delbeau de l'École pratique des hautes études intitulée « Quelques instruments de travail chez les moristes » dans le cadre du colloque international de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, colloque consacré à Jean Mabillon entre érudition et histoire culturelle. C'était le 8 et le 7 décembre 2007 à l'Institut de France.